Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Le texte d'aujourd'hui, il y a la première épître de Pierre, chapitre 2 et les versets 4 à 10. On retrouve également cette citation. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et vous verrez qu'il est encore question du temple. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous un peu sur cette question à partir de ce texte-là. Quelles sont les caractéristiques d'une église vivante ? L'année scolaire dernière, on avait vu quelques caractéristiques tirées de Acte 2, verset 42, qu'une église vivante est une église qui est basée sur l'enseignement des apôtres, donc la parole, la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. Et Pierre ici, dans sa première épître, nous donne d'autres caractéristiques d'une église vivante. Dans son épître, si vous lisez le début du chapitre 1 jusqu'à notre texte, Pierre, l'apôtre Pierre, s'adresse à ceux qui sont choisis de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens, des hommes et des femmes, et c'est aussi un thème qui revient dans la première épître de Pierre, des hommes et des femmes qui sont choisis de Dieu, mais qui ne sont que de passage sur la terre. Ce sont des hommes et des femmes qui sont consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Ça, c'est le tout début, être purifié par l'aspersion de son sang. Et Pierre va décrire quel est le salut de ceux qui sont véritablement chrétiens. Pierre nous dit que ce salut est reçu par la mort de Jésus-Christ et que ce salut a des implications concrètes dans la vie du chrétien. Et on peut penser à cette image de Jésus sur l'arbre qui porte du fruit, et que si l'arbre ne porte pas du fruit, il est coupé et mis au feu. Ces implications, Pierre va les décrire à partir du chapitre 1, verset 13, jusqu'au 2, chapitre 10. Et Pierre introduit toute cette partie en disant, vous avez reçu le salut, c'est pourquoi nous devons vivre l'espérance. C'est pourquoi nous devons vivre une vie sainte, une vie conforme à la volonté du Seigneur. Ce sera les versets 14 et 16. C'est pourquoi nous devons vivre en révérant Dieu. Vous trouverez ça au verset 17 et 21. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons aimer les frères et sœurs chrétiens, versets 22 et 25. C'est pourquoi nous devons croître en nous nourrissant de la parole de Dieu. Chapitre 2, les versets 1 à 3, et le texte qui nous intéresse serait « C'est pourquoi, puisque nous avons le salut, c'est pourquoi nous devons nous édifier pour former un temple pour Dieu. » Ce qui est très intéressant quand on lit la première partie de l'épître de Pierre, c'est qu'il n'y a rien de passif, mais que le salut de Jésus-Christ implique le chrétien de façon active. Et je pourrais m'arrêter là à la prédication et vous dire, mettez cela en pratique et vous serez déjà une église vivante. Notre texte que je vous invite à lire, pour revenir, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10, on voit que c'est un texte qui est ancré dans l'Ancien Testament. Déjà par la référence à ce psaume 118, la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, mais par d'autres références à d'autres textes, à Ésaïe, aux cinq premiers livres de la Bible. Je lis dans la version Summer. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituelle et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Notre texte présente trois autres caractéristiques, j'ai envie de dire, d'une église vivante. La première, c'est qu'une église vivante est une église qui a pour fondement Christ. Deuxième caractéristique que nous verrons, c'est qu'une église vivante, et ça paraît logique, est une église composée de pierres vivantes. Et enfin, le troisième point que je verrai avec vous, c'est qu'une église vivante est une église qui ne faillit pas à sa mission, celle de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Une église vivante est une église qui a pour fondement le Christ. Et dans cette partie, Pierre va faire une description du Christ, de Jésus, en parlant de Pierre. Jésus, selon ce que nous dit Pierre, est la pierre. En anglais, ça donnerait the stone. Vous voyez un peu dans les films américains, on dit voilà, c'est la pierre, c'est le héros, le Jésus-Christ est la pierre. C'est une pierre vivante, bien que mise à mort par les hommes, mais une pierre vivante, une pierre qui a été ressuscitée. C'est une pierre choisie de Dieu, bien que rejetée par les hommes. C'est une pierre à laquelle Dieu attache une grande valeur, une pierre précieuse, bien que, encore une fois, rejetée par les hommes. C'est une pierre d'angle, une pierre principale, mais c'est aussi une pierre qui fait tomber et une pierre qui fait trébucher. Et je vous renvoie à cette parabole des mauvais vignerons dans Matthieu. Voilà, relisez cette parabole. Christ est une pierre qui est devenue, ou est la pierre, qui est devenue la principale de l'édifice, le fondement. Et en préparant cette prédication, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je me suis un petit peu intéressé à l'architecture. Voilà, quand on parle de bâtiments, de pierres, etc. Bon, chose qui paraît évident, la pierre de fondement est la pierre que l'on pose en premier si on veut que tout soit droit. Et on pourrait comparer également Christ comme la pierre, ce qu'on appelle la clé de voûte, ce qui était très intéressant. Certaines recherches en architecture ont remarqué qu'en fait la clé de voûte était la première pierre qui était, enfin, si on faisait une voûte, c'était la première pierre qui était posée pour que toutes les autres soient alignées. Si vous enlevez la clé de voûte, tout s'écroule. Voilà. Jésus-Christ, la pierre, finalement la première posée, la pierre de fondation ou la clé de voûte pour ceux qui préfèrent les choses plus techniques. Et Pierre nous invite à nous approcher de cette pierre de fondation, de cette pierre principale. Je voudrais juste m'arrêter un peu plus en détail à cette description du Christ. Christ est la pierre. Il n'y a pas d'autre fondement possible dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'église. C'est pas la fondation d'un homme, d'une tradition. L'Église, notre vie chrétienne, ne peut pas être fondée sur nous-mêmes, sur des traditions, sur des valeurs. Mais il n'y a qu'un seul fondement, Christ. Notre croissance spirituelle passe forcément par Christ, par ce fondement. Et un petit peu avant notre passage, vous avez le chapitre 2, les versets 1-2, qui nous invite à nous nourrir du lait non frelaté, du lait pur de la parole de Dieu, et le faire si nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Christ est la pierre vivante. Une église devient une église vivante si l'église, composée de chrétiens nés de nouveau, dont l'évangile est central dans leur vie, est fondée sur Christ, pierre vivante. Christ n'est pas simplement la pierre angulaire de son église. Il en est la vie, comme la racine d'un arbre qui à la fois fixe l'arbre dans le sol et donne la stabilité à l'arbre, et en même temps nourrit cet arbre. Et c'est pour cela que ceux qui sont fondés sur cette pierre vivante, qui est le Christ, sont appelés également des pierres vivantes. Et on pourrait voir un parallèle avec ce que Jésus dit en Jean 15 avec « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments » et que les sarments tirent leur vie et finalement leur stabilité du cèpe. Il est la pierre choisie par Dieu. Et ça rapprochait aussi de « Il est la pierre ». Dieu a choisi Christ comme fondement. C'est pas un autre, c'est pas nous, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas Bouddha. Mais c'est Christ. Tout passe par lui. Et c'est le plan de Dieu pour le salut, pour l'Église, pour nos vies, que ce fondement soit celui qui est choisi par Dieu, à savoir Christ. Et c'est aussi une pierre de grande valeur, une pierre précieuse. Pour Dieu, bien sûr, c'est une pierre de grande valeur. Mais cela devrait être également le cas pour nous. Une grande valeur par le prix de cette pierre. N'oubliez pas que pour être le fondement de nos vies, de l'Église, pour que cette pierre devienne le rocher de notre salut, en reprenant un texte des psaumes, il a fallu que cette pierre donne sa vie. Une grande valeur également parce que par cette pierre, par cette mort et bien sûr la résurrection de cette pierre, nous pouvons accéder librement à Dieu. Et c'est Dieu, au verset 6, qui nous le dit, « J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. » Et c'est Dieu qui a placé cette pierre, Christ, à l'angle de l'édifice. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Je me suis amusé également, en préparant cette prédication, à regarder sur Internet des images de murs en pierre. Vous avez des murs qui sont bien construites, alors parfois avec des pierres bien taillées de la même taille, mais à chaque fois avec une pierre d'angle ou une pierre fondamentale. Vous avez des pierres aussi, des beaux murs super bien construits, on a l'impression que c'est du solide, pareil avec un fondement, mais avec des pierres de différentes tailles, de différentes formes, et qui tiennent parce qu'il y a un fondement. Vous y trouvez également des murs complètement écroulés, parce qu'il n'y avait pas de fondement, ou il n'était pas solide à cause d'un coup de vent, le mur s'est écroulé. Vous avez des murs qui tiennent, par quel miracle, mais le moindre appui, le mur s'écroule parce qu'il n'y a pas de fondement, pas de solidité. Qu'est-ce que cela implique pour nous, ces images de murs, ces images de fondement? La première chose, c'est de vérifier que Jésus et sa parole sont bien le fondement de notre vie et de l'Église. Ça paraît bête, ce que je dis, ça paraît évident. Et parfois, nous avons tendance à construire notre vie d'Église, notre vie chrétienne, tout, mais pas sur Christ. Nous la baptisons sur ce que nous croyons être de la vie chrétienne, sur nos traditions, sur nos valeurs, sur nos envies, sur notre façon de penser. Mais toute ma vie, toute l'Église doit être construite, sur le Christ. Sinon, comme un mur sans fondement, et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout un grand bricoleur, mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de fondement, un jour ou l'autre, vous avez tout qui s'écroule. C'est comme un mur sans fondement, si nous n'avons pas le bon fondement, tout s'écroule. Que le Christ et sa parole, finalement, soient la seule valeur, le seul fondement dans notre vie. Et Paul nous donne, l'apôtre Paul nous donne un bon exemple. Je crois que c'est dans l'épître aux Philippiens que Michel a lu tout à l'heure, où Paul, quelque part, se vantait en disant qu'il était finalement peut-être le meilleur juif qu'il y a pu avoir dans tous les temps, parce qu'il appliquait à la lettre la loi de Dieu, qu'il était pharisien, juif, né de juif, circoncis le huitième jour, qu'il était le meilleur entre tous, mais qui finalement, il considère tout cela comme des détritus, comme des ordures, parce que ce qui compte le plus pour lui, c'est de savoir que Christ est sa raison de vivre, son fondement. Une église vivante est une église composée de pierres vivantes. Et c'est quelque chose qui paraît logique. Pour qu'un tout soit vivant, il faut que les parties soient vivantes également. Pierre a invité ses lecteurs et nous invite également à nous approcher de Jésus, du Christ, pierre vivante. Mais en disant cela, il a un but bien précis. Il y a un but bien particulier de nous approcher de Christ. C'est de devenir avant tout des pierres vivantes à notre tour et de nous édifier en temple spirituel. Quelques remarques. Ce ne sont que des pierres vivantes qui peuvent s'édifier en temple. Et on voit que dans le texte, il n'y a pas de place pour des pierres mortes. Des pierres mortes ne pourraient pas s'édifier en temple spirituel. Le rôle de ces pierres, finalement, n'est pas un rôle passif, mais un rôle, actif. Les pierres ne sont pas édifiées en temple, mais ce sont ces pierres qui s'édifient en temple. Et je pense à ce que Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens au sujet des dons spirituels, où les dons spirituels servent à l'édification de l'Église et pas forcément à notre propre édification. Les pierres vivantes sont celles et ceux qui ont pour fondement le Christ, qui, comme dans la vigne, porte du fruit, le fruit de l'obéissance. Et les pierres mortes sont celles et ceux qui n'ont pas Christ pour fondement et ou ne portent pas de fruit. Et puis il faut bien entendre encore une fois ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 15. Tout arbre ou tout cep qui ne porte pas de fruit est abattu et mis au feu. Et je vous invite également à lire aussi les différentes lettres que Jean écrit aux sept églises dans l'Apocalypse. Ce sont des lettres dures où finalement Christ fait le bilan de ses églises et parfois dit voilà ce qui ne va pas dans les églises et les invite à remettre de l'ordre, sinon il enlève le chandelier de ces églises-là. Il y a deux groupes de personnes que Pierre nous présente, celles qui croient, c'est-à-dire des personnes qui mettent leur confiance dans la pierre d'angle et qui reçoivent l'honneur, et celles qui refusent de croire. La pierre, qui est une pierre de fondement, devient pour eux, une pierre de condamnation, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Et encore une fois, c'est une référence à ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. Ou nous appartenons à un groupe, ou nous appartenons à l'autre. Mais nous ne pouvons pas nous considérer comme des pierres vivantes si le fondement et les fruits de ce fondement, c'est-à-dire porter du fruit et l'obéissance, font défaut. Et j'ai envie de dire, une église avec des pierres mortes est un suicide pour cette église. Excusez-moi cette phrase. Mais voilà, un mur où vous aurez une pierre qui commence à pourrir, vous avez des grandes chances que tout ce mur commence à pourrir. Je prends l'exemple de, je sais plus, c'est ce côté-là, le mur ici où vous avez un champignon qui commence à ronger le mur. Ça commence par un tout petit truc et au fur et à mesure, bah, le mur pourrit. Et ce qu'il faut faire, c'est abattre le mur et recommencer un mur avec des bons fondements. Une illustration, je commence à me mettre au jardinage. Voilà, dans le jardin, j'ai commencé à planter quelques légumes, des radis, des petits pois, des haricots verts, et puis des choux-fleurs, et je sais plus quoi, enfin de la chicorée. La chicorée n'a pas voulu pousser, les radis sont très bien, ils poussent, et puis on a commencé à manger. Les petits pois commencent à grandir, et il y a le problème des haricots verts. Si vous ne tuez pas les limaces et les escargots, vous ne verrez jamais vos haricots verts. Parce que les limaces et les escargots raffolent apparemment des plants d'haricots verts. J'ai beau mettre de l'anti-limace et de l'anti-escargot, j'ai toujours ces chères limaces et ces chers escargots qui viennent manger mes haricots verts. Et ce qui fait que j'ai simplement une tige où j'ai plus de fruits. Enfin, j'aurai pas d'haricots verts. Ce que je vais faire, c'est devoir arracher ces plants d'haricots verts puisqu'ils ne me servent à rien. Et une simple tige d'haricots verts, c'est pas très esthétique. Mais voilà un petit peu l'image. Il y a deux solutions, c'est soit arracher les plants d'haricots verts qui ne servent à rien, et de faire en sorte que les limaces et mes chères limaces et mes chers escargots ne viennent plus manger mes haricots verts. On voit dans le texte qui nous intéresse que ces pierres vivantes sont considérées comme des prêtres, sont consacrés à Dieu, qui offrent des sacrifices spirituels que Dieu accepte favorablement par Christ. C'est le verset 5. Pourquoi? Parce que les pierres vivantes, étant fondées sur cette pierre principale et nourries de la parole pure, font simplement la volonté de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas de sacrifice, vous ne voyez pas avec une chèvre, un mouton dans l'église et que tous les dimanches, nous faisons une joie d'égorger la pauvre chèvre et le pauvre mouton et de répandre le sang sur la table de la Sainte-Seine. Le sacrifice est un sacrifice spirituel. De quelle sorte de sacrifice s'agit-il? C'est le sacrifice de notre louange. Et Michel nous a invités à donner une louange vivante. La louange, c'est notre reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Et vous trouvez ça en Hébreux chapitre 13, verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. C'est aussi le sacrifice de toute notre vie, de notre consécration totale au Christ. Et c'est ce que Paul dit en Romains chapitre 12, verset 1, texte que nous connaissons, que nous avons l'habitude de lire. mais que je vous invite à vraiment mettre en pratique. Je vous invite donc, frères, à cause de son immense bonté. On ne donne pas notre vie en sacrifice parce qu'il le faut, mais nous le faisons parce que Dieu est bon envers nous. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Et je continue avec le verset 2 parce que ces deux versets sont, comment dire, vont ensemble. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Chaque fois que nous servons Dieu, c'est un sacrifice que nous apportons à Christ. L'annonce de l'Évangile également est vue par Paul comme un sacrifice agréable à Dieu. En Romains 15, verset 16, et même en Philippiens, chapitre 2, verset 17 et 4, 18, il considère que les personnes à qui il a annoncé l'Évangile et que ces personnes qui se sont converties sont comme un sacrifice d'une agréable odeur envers Dieu. À chaque fois que nous annonçons l'Évangile et que nous faisons, j'ai envie de dire, ce que l'Église doit faire, c'est un sacrifice de bonne odeur que nous offrons à Dieu. Et tous ces sacrifices, finalement, se font ou devraient se faire naturellement quand nous sommes réellement fondés sur le Christ, pierre vivante, parce que nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Une église vivante est une église qui ne faillit pas à sa mission. J'ai un ami, un camarade d'études, quand j'ai fait mes études de théologie, qui s'appelle Liet, et qui est un chrétien d'origine kabyle, donc Algérie. Et donc à la fin de nos études, nous devons faire un mémoire de fin d'études sur un sujet bien particulier. Alors, un sujet, que ce soit de la théologie pure, une analyse de texte ou une réflexion sur l'histoire de l'Église. Et lui, en tant que kabyle, et si vous connaissez des kabyles algériens, ils sont très fiers d'être kabyles. Enfin, c'est comme les Bretons, on est d'abord kabyle avant d'être algérien. Je pense que les Bretons sont d'abord bretons avant d'être français. Mais voilà, une fierté d'être kabyle. Et s'était intéressé à l'histoire de l'Église en Kabylie ou en Afrique du Nord. Enfin, je ne sais pas comment s'appelait la province romaine de l'époque. Et sa question qui s'était posée, c'était pourquoi l'Église, qui était une Église vivante, avec des grands théologiens qui sont connus, comme Saint Augustin, pourquoi l'Église en Afrique du Nord a décliné et a complètement disparu? Et en faisant ses recherches, et son travail de recherche, il s'est rendu compte que l'Église a commencé à mourir et à décliner quand les chrétiens se sont institutionnalisés, je ne sais pas si c'est français, en disant voilà, nous sommes chrétiens, restons entre nous, et qu'ils ont oublié leur mission première, celle d'annoncer l'Évangile. Et en quelques années, l'Église a décliné. Et aujourd'hui, nous savons que l'Afrique du Nord, c'est plutôt l'islam qui domine. Et on peut remercier le Seigneur parce qu'il y a en ce moment un réveil en Kabylie. Mais voilà, l'Église en Kabylie, en Afrique du Nord, a commencé à mourir parce que les chrétiens, finalement, commençaient à mourir au fur et à mesure et qu'ils ont oublié leur tâche principale, celle d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Ça, c'est l'histoire. Mais vous avez aujourd'hui encore des églises qui meurent et qui ferment parce que les pierres qui forment cette église meurent, pas physiquement, mais oublient leur tâche première, celle d'annoncer l'évangile, et des églises fermes meurent à cause de cela. Il y a plusieurs raisons à cause de la mort d'églises ou d'églises vivantes, comme il y avait en Afrique du Nord. C'est que le fondement principal, c'est Christ n'est plus. Il n'y a plus de pierre vivante. Il n'y a plus l'annonce de l'évangile. Finalement, il n'y a plus de vie spirituelle. Ce n'est plus que des simples bâtiments, mais il n'y a plus, ce n'est plus un temple spirituel vivant. Et encore une fois, on peut relire les lettres aux églises de l'Apocalypse, et que nous méditerons prochainement, ou encore une fois, où Christ, dans son grand amour, avertit l'Église de faire attention, de revenir à ses premières œuvres, à son premier amour, de peur que ça soit une église qui commence à, j'ai envie de dire, de pourrir de l'intérieur et de mourir, et que je trouve cette image horrible où Jésus dit « Si tu ne te repens pas, j'enlèverai le chandelier de ton église. » Le chandelier, symbole de la présence de Dieu dans l'église. Parce que si l'église meurt, s'il ne fait plus, s'il n'a plus son fondement, si elle ne fait plus sa mission, celle d'annoncer l'évangile, l'église n'a plus raison d'être. Mais le verset 9 nous dit que ceux qui sont une communauté de prêtres, plus exactement des rois prêtres. Et quand nous regardons l'Ancien Testament, il y avait, j'ai envie de dire, deux fonctions principales des prêtres. Et on voit bien, encore une fois, ce ne sont pas, ils ne parlent pas que du pasteur, des prêtres ou des personnes qui sont responsables de l'Église, qui sont considérés comme des prêtres, mais que tous ceux qui sont fondés sur le Christ sont des prêtres, enfin des rois prêtres. Il y avait deux fonctions principales des prêtres ou des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. J'ai envie de dire celle de la prière, celle d'offrir les sacrifices, et celle d'enseigner le peuple. Et on peut voir l'annonce de l'Évangile. Le but de ces pierres vivantes, c'est de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés de passer aux ténèbres à son admirable lumière. Et c'est pas simplement chanter le dimanche matin les chants qui, enfin, je sais plus les chants qu'on a chantés ce matin, mais qui glorifient le Seigneur. Mais c'est annoncer, célébrer le fait que le Seigneur nous a sauvés, nous a fait passer des ténèbres à la lumière et de le proclamer bien haut. C'est proclamer que ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne sont pas fondés sur le Christ, ne font pas partie du peuple, mais peuvent faire partie du peuple. Finalement, c'est témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, la vocation du peuple d'Israël, c'était d'être une bénédiction pour toutes les nations qui ne faisaient pas partie du peuple, et d'annoncer finalement la loi du Seigneur pour que ces peuples puissent faire partie également de l'Alliance. Mais on voit que le peuple d'Israël a failli à cet objectif, n'a pas obéi au Seigneur. Et nous voyons le résultat, c'est que le peuple d'Israël a été déporté en Syrie, à Babylone, à cause de leur manque d'obéissance. Que faire maintenant? Qu'est-ce que le texte nous enseigne pour nous concrètement? Et j'en veux dire que la seule chose que le texte nous dit, c'est bien sûr que nos vies soient fondées sur le Christ et sur sa parole. Mais pour moi personnellement, c'est de dire que nous devons prendre nos responsabilités. Nos responsabilités d'être des prêtres qui annoncent bien haut les merveilles que le Seigneur a fait. Un Dieu qui peut faire en sorte que des gens fasse des ténèbres à la lumière, qui peut en sorte que des gens qui ne soient pas de son peuple puissent devenir membres de son peuple. Prenons nos responsabilités de prêtres, de pierres vivantes. Vivons selon également sur ce fondement, sur cette pierre d'ancre. Il se peut que la pierre que nous sommes dans cette église locale commence à s'effriter, à mourir, à être, j'ai envie de dire, envahie d'un champignon qui commence à déranger. Revenons à Dieu. Approchons-nous de Dieu comme nous l'invite Pierre. Et j'ai envie de dire parce que Dieu est le bon tailleur de pierre. C'est pas une expression qui est dans la Bible, mais on pourrait imaginer que Dieu est le bon tailleur de pierre qui est capable d'enlever ce qui ne va pas dans nos vies, de nous retailler pour que nous puissions être fondés sur la pierre fondamentale qu'est Christ. Mais cela passe également et passe par la repentance. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est ne pas oublier que dans ce texte-là, bien sûr, il s'adresse à des pierres vivantes, mais il s'adresse aussi à la communauté de manière à ce que tous puissent être des pierres vivantes dans l'Église. Je vous invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui est pure et qui nous permet de croître. Seigneur, pardon quand nous oublions les fondamentaux dans notre vie, quand nous oublions d'être établis sur toi qui est la pierre principale. Que ton esprit puisse travailler dans nos cœurs afin que nous ne restons pas indifférents face à ta parole. Et que ta parole puisse travailler en nos cœurs et que nous puissions mettre nos vies personnelles, mais aussi notre vie d'église, en conformité à ta parole, en conformité avec cette pierre de fondement, cette pierre d'angle, qui est le Christ. Il se peut, Seigneur, aussi que nous pouvons nous commencer à nous effriter, à ne plus être une pierre vivante, Seigneur. Nous voulons, et je veux te demander pardon quand cela peut m'arriver. Et comme l'apôtre Pierre nous y invite, nous voulons nous approcher de toi afin que tu puisses faire les ajustements nécessaires dans nos vies, mais aussi dans notre vie d'église. Que si tu dois enlever ce qui ne va pas, Seigneur, dans ce que nous sommes, que tu puisses le faire. Que nous puissions être des pierres vivantes, parce que nous sommes fondés sur toi, pierres vivantes. Que ton Saint-Esprit nous travaille dès maintenant, Seigneur. Que ta parole agisse dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole et pour ce que tu fais. Amen.